Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et notre rubrique rétro pour ce 31 mai. Et aujourd'hui, plongeons-nous dans un événement marquant de la Seconde Guerre mondiale, mais souvent méconnu. Il est d'une importance capitale pour l'Australie, l'attaque japonaise sur Sydney, survenue la nuit du 31 mai au 1er juin 1942. Le récit avec François Vantôme.
Pour mieux comprendre l'incident de l'attaque japonaise sur Sydney, il est essentiel de replacer cet événement dans le contexte historique tumultueux de 1942. À ce moment-là, la guerre dans le Pacifique était en pleine intensification. Après l'attaque surprise de Pearl Harbor en décembre 1941, les forces japonaises ont commencé à avancer rapidement dans la région. Elles ont mené une campagne d'expansion audacieuse, prenant le contrôle de territoires stratégiques tels que les Philippines, les Indes néerlandaises et les îles Salomon. Cette progression a suscité une vague d'anxiété en Australie, car le pays se trouvait maintenant à la portée des forces japonaises. L'idée même d'envahir l'Australie était sérieusement envisagée par l'état-major japonais. L'Australie représentait une position géographique clé dans le Pacifique, faisant partie des lignes de communication entre les États-Unis et leurs alliés. L'Australie possédait aussi des ressources naturelles et une industrie qui aurait été précieuse pour l'effort de guerre japonais. Enfin, l'expansion japonaise visait également à créer une zone de sécurité autour des îles japonaises, réduisant ainsi la menace des puissances alliées et augmentant la domination japonaise dans la région. Le 19 février 1942, la ville portuaire australienne de Darwin subit une série de bombardements aériens, devenant ainsi la première ville australienne à être attaquée sur le sol pendant la guerre. Plus de 240 bombardiers japonais armés et déterminés visent des infrastructures militaires et stratégiques, causant des destructions considérables et faisant de nombreuses victimes civiles et militaires. La menace d'une invasion japonaise n'était plus un concept lointain, mais une réalité tangible. Dans ce contexte, le gouvernement australien a multiplié les efforts pour préparer le pays à une éventuelle agression. Des mesures de défense ont été mises en place, y compris l'établissement de barrages et la mobilisation des réserves militaires. Cependant, Sydney, en tant que principal port et centre économique de l'Australie, était perçue comme une cible stratégique pour les Japonais. En perturbant les opérations maritimes et commerciales à Sydney, le Japon espérait affaiblir le soutien des alliés et créer un climat de peur. L'idée d'envoyer des sous-marins servirait aussi à tester la résistance et les capacités de défense de l'Australie. Les Japonais visaient ainsi à évaluer comment les forces alliées réagiraient à une première attaque et à prendre note de leur dispositif de sécurité. La nuit du 31 mai 1942, les Japonais passent à l'acte. Trois sous-marins midget japonais, lancés depuis un groupe de cinq plus grands sous-marins qui se tenaient en attente au large des côtes, ont attaqué le port de Sydney. Deux d'entre eux ont été détruits avant même de pouvoir tirer leurs torpilles. Le troisième a réussi à lancer une attaque sur le USS Chicago, mais a manqué sa cible, causant une destruction tragique sur le HMAS Cutabule, un ferry converti où 21 marins endormis ont perdu la vie. Écoutez le témoignage de Neil Robert de la Royal Australian Navy.
There was this net that could be opened for any ships that were leaving or coming into the harbour. And the Manly ferry came, and this first submarine that came in was manoeuvring to follow underneath the Manly ferry. But of course they were difficult to manoeuvre. It missed the gate, and he went into the net and was caught in the net. Well, the second one that came in that did all the damage, he followed the underneath the ferry, and he eventually positioned the submarine near Clifton Gardens. And his purpose was to destroy the Chicago, which was a heavy American cruiser. And he fired from there, fired two torpedoes, and both of them missed the Chicago, and the destroyer that was alongside the Chicago travelled right across the harbour, and one of them went up, would you believe, onto a wharf and didn't explode. It burst over, but didn't explode. But this other one came across, now tied alongside the cutter, was a Dutch submarine, went underneath the submarine, underneath the cannibal, and exploded against the seawall.
Une semaine après cette première attaque, deux des plus grands sous-marins japonais sont revenus pour bombarder Sydney et Newcastle avec leurs canons de pont. Pendant 20 minutes, l'un d'eux a pilonné Newcastle jusqu'à être repoussé par les canons côtiers. En parallèle, un autre sous-marin a tiré 10 obus sur l'est de Sydney. Malgré ces attaques, les dommages furent minimes. En menant des attaques à Sydney, le Japon cherchait à forcer les Alliés à détourner des ressources militaires vers l'Australie, ce qui pouvait affaiblir leur effort de guerre dans d'autres théâtres comme le Pacifique Sud-Ouest. Psychologiquement, l'attaque a profondément marqué la population, instaurant un climat de peur et d'insécurité au sein de la société australienne. Après l'attaque du 31 mai 1942, bien que l'Australie ait continué à contribuer à l'effort de guerre en Europe en envoyant des troupes, l'attaque de Sydney a entraîné une réévaluation des priorités. Les autorités ont commencé à privilégier la défense du territoire australien et des intérêts dans le Pacifique. Ainsi, un nombre croissant de soldats australiens a été affecté à des missions de défense à l'intérieur du pays, tandis qu'une attention renforcée a été portée aux collaborations avec les forces américaines qui étaient de plus en plus présentes dans le Pacifique à cette époque. Grâce à la résistance des forces australiennes et américaines, ainsi qu'à des batailles telles que celle de la mer de Corail ou de Midway, les ambitions japonaises d'envahir l'Australie n'ont jamais été réalisées.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Si tu veux, je peux.
C'était Zoé May avec cette chanson Voyage qui représentait la Suisse à l'Eurovision. Cette année, à des courtes pauses, on se retrouve dans quelques instants.
Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait et connaissait plusieurs semaines de violences terribles, déclenchées par un projet de loi portant sur le dégel du corps électoral dans l'archipel. Au total, 14 personnes seront tuées par balle au cours de ces violences en l'espace de 4 mois, qui feront aussi plusieurs centaines de blessés. Mais les émeutes ont également réduit en cendres de très nombreux commerces et entreprises. Un an plus tard, les dégâts sont encore largement visibles dans l'archipel et les conséquences de cet embrasement sont nombreux. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Benoît Trépied, anthropologue et chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la question de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Benoît, ces événements en Nouvelle-Calédonie, ils ont un an déjà. À l'époque, on a pu utiliser de nombreux termes pour qualifier cet épisode de violence dans l'archipel. Alors, on a utilisé les termes émeute, violence, révolte. Un an plus tard, avec un peu de recul, comment est-ce qu'on peut décrire ce qu'on a vu en Nouvelle-Calédonie il y a un an?
Ça reste difficile à qualifier, hein, ce qui s'est passé. Il y a toujours pas de consensus un an plus tard. Certains parlent d'exactions, d'autres d'émeutes, d'insurrections. Et je pense qu'il faudra un certain nombre, il faudra mieux comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est joué réellement dans ce moment-là, dans les mois et les années qui viennent, pour pouvoir mettre un mot sans doute plus adéquat, une catégorie plus adéquate. À minima, je pense qu'on peut dire qu'on a eu affaire à un soulèvement qui était à la fois politique et social. Il y avait vraiment les deux aspects, puisqu'il y avait d'une part les mobilisations contre le dégel du corps électoral, qui là était organisé, encadré par en particulier la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, qui a fait des manifestations, qui a fait des points de mobilisation, etc. Mais cette mobilisation politique, elle a été articulée, doublée, dépassée, on ne sait pas vraiment encore, par un mouvement de révolte sociale qui est véritablement a mis le feu à Nouméa, qui a découlé de ces frustrations sociales accumulées depuis des années, en particulier par la jeunesse kanak et océanienne pauvre de la ville, qui s'est jetée à corps perdu dans l'insurrection. Et qui a, à mon sens, très largement dépassé le cadre stricto sensu de la mobilisation politique initiale sur le dégel du corps électoral. Donc c'est un peu le cocktail de ces deux éléments qui a semé le chaos dans l'agglomération de Nouméa.
Alors le bilan humain de ce chaos, il est terrible. On parle de 14 tués par balle, mais aussi de plusieurs centaines de blessés. Mais on imagine qu'il y a énormément de blessés qui n'ont pas été comptés et qu'il est difficile d'avoir un bilan précis.
À l'heure actuelle, on a le bilan des autorités officielles. Il y a de plus en plus, enfin, il y a un certain nombre d'enquêtes et contre-enquêtes médiatiques par des avocats, par des collectifs de victimes qui sortent de plus en plus, hein, ces jours-ci. Encore récemment, tout récemment, il y a eu un reportage du Média Blast qui s'est appuyé sur une contre-enquête menée par les collectifs, autour de la défense des prisonniers, etc., qui a souligné qu'il y avait eu sans doute énormément d'aspects de violence policière qui n'ont pas été comptabilisés encore. Donc là encore, on est complètement dans le flou et c'est au fur et à mesure de ces travaux, de ces enquêtes, contre-enquêtes, des procédures judiciaires aussi, hein, qui vont permettre de révéler des choses, qu'on aura une vision plus large de ce qui s'est passé, plus précise. Après, d'un autre côté, sur le moment et dans les mois suivants, il y a eu aussi énormément de rumeurs, de toutes sortes en fait, que les réseaux sociaux ont accéléré, ont amplifié. Donc on a eu beaucoup de mal et on continue d'avoir du mal à se repérer précisément dans la quantification précise des violences liées à ce qui s'est passé à partir du 13 mai 2024.
Alors, il y a eu des violences, il y a eu un bilan humain très lourd, mais il y a aussi eu des dégâts matériels très importants et des conséquences économiques énormes sur l'archipel. Comment on évalue la situation sur place aujourd'hui, un an après le début?
Elle est extrêmement critique, hein. Le tissu économique est complètement ravagé. Il y a énormément d'investisseurs, de patrons, d'entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a beaucoup qui partent. Et ceux qui restent hésitent vraiment à réinvestir. En particulier parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir pour le moment, hein.
Alors la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans cette interview. À l'époque, au début des violences en Nouvelle-Calédonie et dans les mois qui ont suivi, on a vu certains bouleversements politiques en métropole, entre des élections législatives anticipées, pas mal de changements de ministres aussi. Comment est-ce que l'instabilité politique en France métropole a affecté la réponse apportée à la situation qui était urgente et qui reste urgente en Nouvelle-Calédonie?
Le premier élément, c'est qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin de l'année dernière, le dossier calédonien est tombé en déshérence du point de vue de l'État, évidemment, puisqu'en fait, on ne peut pas traiter un dossier aussi chaud dans un contexte de gestion des affaires courantes au niveau politique de l'État, et que le niveau de tension entre indépendantistes et loyalistes était tel qu'il fallait absolument que l'État puisse reprendre la main et faire une espèce de médiation. Donc cette situation, elle a perduré pendant très longtemps, on le sait, d'abord pendant tout l'été. Le premier gouvernement Barnier a commencé à renouer les fils du dialogue et paf, il a été de nouveau renversé. Et puis, depuis le début de l'année, c'est Manuel Valls qui a repris le flambeau. Mais on sait par ailleurs que ce gouvernement, il est très menacé, toujours. Que Manuel Valls lui-même, il est très menacé au sein du gouvernement, hein. Il y a des tensions très fortes, même au sein de, à Paris, quoi, entre Retailleau, Darmanin, Lecornu, qui sont plutôt hostiles au projet qu'avait porté Valls. Donc, il y a pas mal de tensions qui continuent de fragiliser tout ça. Et alors à minima, je pense, mais on est à l'abri de rien, mais je pense que les parlementaires français ont compris que de voter de leur côté unilatéralement le dégel du corps électoral, comme le prenaient les loyalistes l'année dernière, c'était pas une solution parce que si vous braquez les indépendantistes, en fait, les Kanaks, ils sont prêts à tout pour se battre pour leur indépendance et leur décolonisation. Mais maintenant, on rentre en plus dans une période d'instabilité terrible, puisque va y avoir les élections provinciales de Calédonie, les municipales de 2026 et finalement les présidentielles de 2027. Et c'est à se demander si une solution réelle va pouvoir se dégager, puisqu'il faut un État stable. Et comment est-ce qu'on aura un État stable avant 2027? C'est une gageure. Donc cette instabilité politique au sein de l'État et les tensions internes au sein de l'État français à Paris a un impact direct sur l'état du débat à Nouméa.
Le projet de loi sur le dégel du corps électoral, il a été abandonné par le gouvernement de Michel Barnier, c'était en octobre dernier. Depuis, vous l'avez dit, la France a un autre Premier ministre, François Bayrou, qui a fait de Manuel Valls, son ministre des Outre-mer. Alors, vous l'avez dit, il s'est rendu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur en quoi a consisté son travail en Nouvelle-Calédonie? Comment il a tenté de renouer le dialogue?
Manuel Valls, il a vraiment tenté de fermer cette parenthèse en réalité, cette séquence de 3 ans où l'État a fait dévier la trajectoire de la Calédonie parce qu'il a changé d'attitude politique. Il s'est remis dans l'héritage rocardien. Il a compris que de toute façon, il n'y aurait pas de solution en Calédonie si la revendication de décolonisation des Kanaks n'était pas achevée. Donc il a dit clairement, il faut achever enfin la décolonisation. Et c'est ce qui a amené d'abord tous les gens à se mettre autour de la table alors que depuis un an, il parlait plus. Donc il a réussi, et ça c'était une réussite. Et puis au bout du bout du bout de ce travail, il a proposé ce projet de souveraineté avec la France, qui est finalement une sorte de compromis, sans doute à peu près le seul qui puisse marcher en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il à la fois il satisfait la revendication kanak de pleine souveraineté et il assure des garanties à ceux qui sont partisans du maintien dans la France. Et c'est cette solution, finalement, autour de laquelle la Calédonie tourne depuis 40 ans, on a beau dire, on a beau faire, on a beau chercher, c'est vraiment celle-ci qui est sans doute la voie de compromis qui permettrait de sortir le pays de l'ornière. Ça a été refusé par les loyalistes. Donc maintenant, il a été complètement désavoué et par les loyalistes et par les appuis des loyalistes à Paris, que sont messieurs Lecornu, Darmanin, Retailleau et sans doute aussi Emmanuel Macron. Donc maintenant, on est complètement dans la panade. En quelques jours, les loyalistes se sont mis à dire que Manuel Valls, en fait, il avait promis l'indépendance, qu'il les avait trahis, qu'il avait tué les négociations, etc. Donc maintenant, on en est au point mort.
En mars dernier, vous avez sorti un livre, Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, pour tenter de comprendre l'embrasement de l'archipel il y a un an. Et vous évoquez notamment une situation qui couvait depuis longtemps, mais vous questionnez aussi l'efficacité des accords de Nouméa.
Oui, ces accords de Nouméa, ils ont ouvert un processus de décolonisation inédit et tout à fait intéressant, assez unique dans le monde, puisque c'était l'idée d'une accession progressive du pays à la pleine souveraineté avec un transfert progressif et irréversible de compétences, la reconnaissance de l'identité kanak au centre du dispositif et puis la construction d'une citoyenneté calédonienne qui est un espace de réconciliation entre les kanaks et les non-kanaks implantés dans le pays depuis très longtemps.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Et c'était Chéri, la chanson de Salif Keita, en ce samedi sur SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Olivia Sayas, bienvenue et merci.
Ben, merci à vous.
Vous avez dit quelque chose qui m'a frappée. Le film que j'ai écrit est celui qu'on a fait. En d'autres termes, la différence qu'il y avait entre le mot et les paroles parlées.
Ben oui, enfin, disons que je crois que c'est souvent comme ça, mais c'est un processus quand même particulier au cinéma, puisqu'il y a à la fois de l'écriture et de l'incarnation. Hein. C'est-à-dire que quand on écrit, on imagine des choses, on voit des choses, on interpose, admettons, à notre imagination des images qu'on a vécues, observées, rêvées, etc. Et puis, quand il s'agit de filmer ces choses-là, il y a le réel, quoi. Il y a la réalité, il y a le monde. Donc ça veut dire que pour moi, un scénario, c'est un point de départ. On commence par là, on commence avec ce qu'on a imaginé, et puis le contact avec le monde nous permet d'aller en fait beaucoup plus loin, et puis surtout d'enrichir l'histoire, d'enrichir de l'expérience de nos collaborateurs, de celle au premier titre des comédiens.
Donc, on dit d'ailleurs que vous êtes un réalisateur de comédiens, parce que les comédiens aiment travailler avec vous.
Bah pour moi, le cinéma, c'est le travail avec les comédiens. Disons que je suis quelqu'un qui m'intéresse à la forme, aux images, etc. Mais enfin, la chose qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et quand on raconte une histoire, il y a la vérité, c'est la vérité humaine qui est celle qui est exprimée par les acteurs qui prennent en charge votre histoire, qui prennent en charge vos personnages. Donc c'est vrai que moi, j'en suis très attaché et quand je fais mes films, je me sens extrêmement proche d'eux.
Mais vous aviez une très très belle distribution.
Ben là, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir tourner avec les comédiens, littéralement, enfin, non pas exactement pour qui c'était écrit, parce que ça, je l'ai pas écrit en pensant à des comédiens, mais enfin, en tout cas, ceux qui correspondaient à mon premier choix. Enfin, pour moi, j'avais envie de travailler avec Edith Scob, j'avais envie de travailler avec Juliette Binoche, Charles Berling, Jérémy, tout ça, disant que d'une certaine façon, la distribution des films s'est mise en place de façon complètement naturelle, et avec, selon une logique interne, et il n'y a pas eu de, je sais pas, souvent, il y en a des soucis, quoi, des fois, des comédiens sont pas disponibles, ou des choses comme ça. Là, ça s'est passé de façon extrêmement organique, quoi. Les choses se sont articulées les unes avec les autres naturellement.
Mais on a l'impression d'une tranche de vie. C'est très naturel, leur interaction.
Oui, moi je répète pas du tout. Donc ça veut dire que j'ai pas construit ça par un processus justement de répétition, mais plutôt d'abord j'ai eu envie que ce soit des comédiens qui se connaissent et qui s'apprécient, qui est le cas spécifiquement entre Juliette Binoche et Charles Berling, qui sont proches en la vie. Puis je les ai quand même un peu comme je les encourageais à ajouter des touches, à improviser des phrases. Ils se retrouvaient ensemble dans un travail qui était un travail collectif. C'est-à-dire que ce n'était pas tellement des personnages isolés, je dirais même Juliette Binoche, c'est vraiment prêté au jeu, quoi, parce qu'elle a un rôle où elle doit se fondre dans un ensemble. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle un film choral, parce que je ne pense pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, je crois qu'Orphée l'heure d'été, c'est plus un film où il y a un personnage collectif qui est la famille, et où une partie du travail pour le comédien, c'est d'abord de trouver sa propre voix, mais une autre partie, c'est d'arriver à trouver une façon de se combiner dans une dynamique commune avec les autres protagonistes.
Mais ils sont tous au diapason. On a véritablement l'impression d'une vraie famille.
J'avais très envie de ça, mais enfin, ça me semblait extrêmement difficile. Je dois dire que j'avais beaucoup le trac avant d'aborder ce
Il y avait quand même un travail d'alchimiste que vous avez accompli. Une chose que je vois dans les personnages, c'est vraiment trois groupes de personnages. Il y a d'abord les personnages en eux-mêmes, et puis il y a les thèmes qu'ils colportent, mais il y a la maison. La maison est aussi un personnage.
la maison, je pense que j'aurais pas fait ce film si j'avais pas trouvé cette maison. Enfin, si on l'avait pas trouvé. C'est un lieu où ce qui m'a porté évidemment, bon, enfin de la façon dont le film est aussi un peu une réflexion autour de choses qui ont trait à l'art. J'avais envie que ce soit une maison d'artiste, enfin que ce soit une maison où ait lieu justement l'alchimie dont vous parliez entre la nature, le vivant et un artiste. Et je voulais un livre qui exprime cela. Et quand on a visité d'abord, je le ressentais pas parce que c'était la plupart du temps des maisons beaucoup trop bourgeoises. Et là, il y avait quelque chose qui était spécifique à cette maison-là, qui ramenait à la période de l'impressionnisme. C'est une qui date de cette période-là, dans une région qui a été, comment dire, parcourue par les peintres de cette génération, et où on sent la rencontre entre l'humain, le vivant et la nature. On voit comment tout est imbriqué, comment le jardin, l'atelier et les objets qui peuplent la maison sont une seule et même chose.
Et ils s'articulent les uns les autres. Mais d'ailleurs, votre film, et on va revenir au thème du film, mais votre film, c'est aussi une réflexion sur l'art, parce que l'art en tant que collection de famille, l'art inspiré par la nature, l'art créé par des humains, et puis l'art, les œuvres, une fois qu'elles se trouvent dans le musée, elles sont privées justement de ce lien organique.
Disons qu'en tout cas, elle passe du monde des vivants au monde des morts. Hein. Les musées, de toute façon, c'est parti le monde des morts, puisque on y trouve des visages, des paysages qui ont disparu, représentés par des artistes qui ont eux-mêmes disparu. Donc, quelle que soit la façon dont on envisage ce que c'est qu'un musée, le musée a ce lien intime avec la mort. Et donc, effectivement, lorsqu'un objet y pénètre, il change de nature, il y a une transmutation qui a lieu. Et en même temps, cette transmutation, c'est son entrée dans ce qu'on appelle l'histoire de l'art. Il prend sa place très modeste ou plus importante dans une sorte de continuité qui est celle de l'histoire de l'art. Puis avec ce que ça implique aussi de distance et de définition de sa valeur marchande. Quoi. Donc tout d'un coup, c'est tout ce à quoi il avait échappé jusque-là, c'est-à-dire le commerce et la mort qui induisent du coup sa nouvelle nature. Quoi. Voilà. Et c'est... Alors après, il y a quelque chose évidemment de l'invisible, de la beauté qu'un artiste a su y mettre, qui demeure intact. Mais le rapport immédiat avec le vivant est perdu, bien sûr.
Oui, et ça, on le sent avec cette dernière visite au musée d'Orsay, d'ailleurs. C'est un clin d'œil au musée d'Orsay. Et c'est une magnifique visite guidée au musée d'Orsay qui vous a prêté des œuvres, d'ailleurs.
Le musée d'Orsay, disons qu'ils ont été extrêmement généreux avec nous. Ils ont facilité le tournage dans leur lieu. Admettons qu'on a pu le faire ou qui entrait dans le cadre de notre budget du film, alors que dans un autre contexte, ça aurait été inabordable. Mais de la même manière, ils ont fait pour nous des choses qu'ils font jamais. Par exemple, autoriser la sortie d'œuvres. Le bureau de Majorel, la vitrine de Majorel et quelques autres pièces sont des pièces du musée. Et donc, dont ils ont autorisé la sortie. Ça impliquait d'avoir avec nous...
Ah oui, une certaine logistique quand même. Oui.
Mais enfin, ce sont des choses qu'ils ne font jamais. Hein. Ça a été vraiment, on peut dire...
Une très belle coopération.
Grandement aidé.
Mais de toute façon, je crois que ça va rehausser aussi la curiosité pour le musée d'Orsay. Donc, je crois qu'ils en profiteront un petit peu. Mais revenons au thème de Heure d'été. Je l'ai vu comme la vie et ses cycles, le temps. J'ai vu comme la mort et les bouleversements, parce qu'une mort change toujours les relations entre les gens. Les choses qui sont enfouies remontent à la surface. Les secrets sont soit dévoilés, soit perdus à jamais. Et puis, c'est la dispersion des racines.
Ben, disons que je le vois aussi comme une sorte d'appel d'air. Enfin, dans le sens où tout d'un coup, c'est pour moi la mort, au-delà de tout ce que vous dites, c'est aussi une absence. C'est un vide qui se crée et le paradoxe et la cruauté du vivant, c'est que la question se pose aussitôt de comment ce vide va être rempli et de qu'est-ce qui va se substituer à lui. C'est aussi bien du point de vue matériel que d'un point de vue même plus abstrait. Et donc, j'avais fait un film il y a longtemps maintenant qui s'appelait fin août, début septembre, dont le sujet était vraiment le deuil, enfin la disparition d'un écrivain, quoi, et au fond de ce qui restait de lui, quoi, les traces qui restaient de lui, qui disparaissaient au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, j'avais envie plutôt de raconter comment on passe d'une génération à l'autre et comment on passe des valeurs d'une génération aux valeurs d'une autre génération. Et comment les choses qui se transmettent, c'est-à-dire celles qui passent par les différentes strates d'une même famille, se transforment dans ce processus.
Mais dans chacun des personnages, il y a un moment et de vie et de temps, mais aussi une vision différente de l'avenir. Il y a Hélène qui est la gardienne du temple,
mais qui est très lucide. Elle dit, mais vous n'avez pas, vous, à continuer ce que moi j'ai fait, parce que vous avez un rôle différent à jouer, vous n'avez pas à être les gardiens de son tombeau. Elle est très lucide de ce point de vue-là. Il y a Frédéric qui, même s'il ne veut pas parler de succession, parce que l'idée de la mort de sa mère le gêne énormément, il est celui qui finalement reprendrait le flambeau s'il en avait la chance. Il y a Adrienne qui a quitté la maison, on ne sait pas pourquoi vraiment. Un début d'explication que donne son frère cadet, Jérémy, qui lui est carrément parti et il a quitté la France. Il y a cette gradation de distance vis-à-vis du passé commun.
Disons que, en tout cas, ils sont tous aux prises avec une chose qui leur est commune, c'est la transformation de la société. Hein. C'est la façon dont le monde change, dont le monde évolue, et dont, au fond, ils sont au-delà d'être témoins, ils sont les acteurs. Hein. Il y a au sein de cette famille l'écho de la façon dont le monde évolue. Je pense que cette transformation, où admettons que le rapport aux racines, le rapport au passé s'amenuise au profit d'un rapport au présent et une connaissance d'un monde plus vaste, quoi. C'est-à-dire on voyage plus loin, plus vite, plus longtemps, on est plus facilement au courant de ce qui se passe dans le vaste monde. Et au fond, plus on en est conscient, plus étrangement notre rapport à l'histoire verticale de notre culture s'amoindrit, ou en tout cas est remis en cause sous la forme sous laquelle elle nous a été transmise jusqu'ici. Enfin, j'ai le sentiment d'appartenir à une génération qui a été préservée de se poser la question de son rapport au passé. Elle a été préservée parce que la génération d'avant l'en a protégée. De la même manière, Hélène protège ses enfants de devoir se définir par rapport à leur culture, leurs racines, encore une fois, et même leur pays. Mais simplement, elle est elle-même infiniment plus lucide qu'eux quant au monde et au devenir parce qu'elle s'est posée ces questions-là. Adrienne, Frédéric ou Jérémy se les sont posées abstraitement, de façon très rapide, brève, parce qu'ils ont été trop, les uns et les autres, pris dans leur existence, pris dans leur propre vie, leur propre travail, leurs propres amours sans doute, et donc n'ont pas, comme Hélène, eu la nécessité de se définir, mais simplement le jour vient où on ne peut plus éluder la question, on est obligé d'y faire face, on est obligé d'y répondre, une réponse sans savoir si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin qui est celle selon laquelle on va se conduire, on va se définir. Et Adrienne, par exemple, je crois, comprend des choses, et Frédéric aussi comprend des choses, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport intuitif à leur famille, aux choses qu'Hélène leur transmet, Frédéric, parce que c'est l'aîné, il se considère un peu
responsable.
Responsable d'une histoire et qu'au fond, que ce qui lui a été transmis, ce sera de son devoir de le transmettre à la génération suivante. Enfin, il est en ce sens un peu d'une autre époque encore. Adrienne, elle, par contre, a absorbé ce monde-là. Elle est artiste, donc elle a vu avec des yeux d'artiste le monde qu'avait créé autour de lui son grand-oncle Paul Berthier. Elle a vu ses objets, elle a baigné dedans et au fond, son art est né de ça. Si elle est artiste aujourd'hui, c'est parce qu'elle a vécu dans ce monde-là et qu'elle l'a intériorisé, donc elle le porte en elle. Et d'une certaine façon, elle a tendance à considérer qu'il n'y a rien à hériter, puisque au fond, elle a déjà tout plié à sa manière. Jérémy, par contre, lui, est pragmatique, comme beaucoup de jeunes gens de son époque. On peut imaginer qu'il a fait une école de commerce, qu'il s'est marié, ses enfants sont nés, son travail l'a porté ailleurs. Et bien voilà, lui, ce qui lui importe, c'est le bien-être des siens, dans un monde qui est très différent, dont même la géographie est différente pour lui. Cette maison de Valmondois représente peu de choses pour lui, mais d'une certaine façon, on peut dire que même la France n'est plus le centre du monde non plus. Le centre du monde, il est là où l'économie a lieu, là où l'histoire se fait, c'est-à-dire dans les sociétés qui sont aujourd'hui en développement, comme encore en Chine, en Inde, là où le monde change.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé. La pire des bénédictions.
Ma meilleure ennemie, chanson de Stromae et de Pomme, un très beau duo donc pour cette chanson. Courte pause, et si on parlait de ce qu'il se passe à l'Alliance française d'Adélaïde, et ça commence dès ce soir.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Eh bien, le plaisir d'avoir Axel Conchat, qui est la responsable des événements culturels à l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue, Axel.
Bonjour, merci, merci Jean-Noël et merci pour cette opportunité de parler de nos événements culturels.
Et on va peut-être commencer avec l'Alliance française qui célèbre la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain avec une exposition, Le Monde sans fin. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur cette exposition ?
Oui, tout à fait. Donc nous avons décidé, comme chaque année, de faire quelque chose pour Environment Day, qui a lieu donc le 5 juin. Et donc cette année, nous faisons cette exposition autour d'une bande dessinée qui s'appelle donc Le Monde sans fin. Elle est réalisée par un expert climatique, Jean-Marc Jancovici, et un dessinateur qui s'appelle Christophe Blain. Et cette BD a eu un énorme succès en France. Elle a été vendue à plus d'un million d'exemplaires, traduit dans plus de 20 langues, voilà, c'est vraiment, elle est vraiment super pour l'avoir lue moi-même. Je me la suis procurée en anglais ici à Adélaïde et voilà, elle est vraiment super. Elle aborde de manière ludique et accessible toutes les questions de l'énergie, du changement climatique et aussi les conséquences pour la planète et parle des solutions possibles pour construire un avenir durable. Et donc, dans cette exposition, nous aurons 24 panneaux en français, qui sont des extraits en fait de la bande dessinée. Et nous aurons une traduction en anglais disponible pour les visiteurs. L'entrée est gratuite et on peut venir la voir à n'importe quel moment à nos horaires d'ouverture de l'Alliance française, donc du lundi au vendredi et le samedi matin aussi. Elle a été réalisée, je termine sur l'exposition, oui. Elle a été réalisée par l'Institut français. Et elle a été exposée dans de nombreux endroits dans le monde, beaucoup d'instituts français, des alliances françaises, en Amérique latine, au Canada, en Europe, au Liban. L'année dernière, elle était à l'Alliance française de Sydney. Et donc voilà. Et donc là, c'est notre tour et elle durera donc du 5 juin jusqu'à fin août.
Donc quelques mois pour que les gens viennent vous rendre visite.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
On enchaîne avec les rendez-vous traditionnels qui reprennent, je pense, après le French Film Festival.
Oui, donc nous avons effectivement eu quelques mois assez bien chargés avec l'Alliance française French Film Festival et tous nos événements du mois de mai. Bon, maintenant on se prépare le reste de l'année, mais nous avons toujours nos meet-up, donc nos meet-up réguliers, donc par exemple le déjeuner conversation qui a lieu tous les mercredis à l'Alliance française à Wayville, au sud d'Adélaïde, donc de 12h30 à 14h. Donc ça, c'est un franc succès. On a à chaque fois une quinzaine de personnes qui viennent discuter en français. Donc c'est un super moment pour parler français, apprendre le français ensemble.
Et en ce qui concerne le ciné-club, le book-club, ça continue, j'imagine?
Alors, le ciné-club, pour le moment, nous n'avons pas de séance prévue. On y travaille. On essaye peut-être de faire un partenariat avec un cinéma à Adélaïde pour pouvoir améliorer l'expérience cinéma de nos membres et des gens qui viennent à nos ciné-clubs. Mais ça, ce sera une affaire à suivre. On travaille dessus. Pour le book club, nous en avons eu un la semaine dernière et le prochain le 19 juin. Voilà. Et donc ce sera comme d'habitude à l'Alliance française avec le livre Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Voilà. Donc pareil pour ceci, il suffit de s'inscrire. On a le livre disponible chez nous pour être emprunté pendant une semaine pour permettre à chacun de pouvoir le lire. Donc si vous voulez y participer, c'est avec plaisir.
Et en ce qui concerne les conférences, les apéros scientifiques, est-ce qu'on peut prévoir une de ces conférences prochainement ?
Alors, on a eu donc début mai nos apéros scientifiques donc, qui sont de retour à l'Alliance française. Le prochain aura lieu le 25 juillet, donc après les vacances scolaires d'hiver. Et de même, on attend de confirmer les intervenants, mais aussi le thème de cet apéro scientifique. Donc, ce sera annoncé très prochainement, normalement d'ici début juin. Et voilà, il faudra regarder, s'inscrire à notre newsletter, aller voir notre site. Tout sera en ligne très prochainement. Et déjà, gardez la date en tête, le 25 juillet.
25 juillet. Bien, c'est the date pour le mois de juillet avec le 5 juillet, car vous allez célébrer Bastille Day chez vous au lieu du 14.
Et oui, tout à fait. Donc, nous organisons, comme chaque année, Bastille Day. Donc, nous faisons ça avec Adélaïde Accueil, l'agence consulaire de France Air en Australie et la FACHI. Donc, tous les quatre, nous organisons Bastille Day. Donc, ça aura lieu le 5 juillet à partir de 18h au Fullarton Park Community Center. Donc, comme l'année dernière. Et au programme, donc, toutes les petites choses qu'on aime en France. Donc, un verre de champagne à l'arrivée, un menu français avec une salade lyonnaise, bœuf bourguignon, mousse au chocolat. Et le menu est adapté aussi pour les enfants. Au niveau de la musique, on a un groupe de musique qui jouera des chansons en français, donc avec Sarah Carso Trio, qui est, c'est une chanteuse française qui habite à Melbourne, et donc qui vient à Adélaïde pour l'occasion. Et il y aura aussi une soirée dansante animée par DJ Benny Max, qui est donc Arnaud, notre très cher prof de français, et qui est aussi dans la musique. Et pour les enfants à partir de 5 ans, il y aura un mural, donc une création d'un mural avec une artiste qui fait des muraux à travers dans Adélaïde avec des enfants, des communautés. Elle s'appelle Elle Dawson Scott de Saskia and Shadow. Et pour les enfants, il y aura la projection d'un film. Voilà. Donc pour réserver, vous pouvez déjà réserver sur notre site. Nous avons aussi une offre Early Bird jusqu'au 15 juin. Donc les billets pour les adultes sont à 35 au lieu de 40 dollars et 20 au lieu de 25 pour les enfants. Donc j'invite tout le monde à le faire avant le 15 juin.
Puis on profite de l'occasion, Axel, pour parler des cours. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez vous en ce moment, en juin, juillet?
Alors en juin, nous avons des cours d'essai à l'Alliance française. Donc on fait régulièrement des cours d'essai gratuits pour permettre aux gens de découvrir comment sont nos cours de français à l'Alliance française, de venir voir nos locaux, de rencontrer des professeurs, poser des questions. Donc ils auront lieu le 5 et le 12 juin à 18h45. Ils durent 45 minutes. Donc il faut simplement s'inscrire en ligne pour y assister. Et voilà, donc j'invite tout le monde, tous les gens qui se posent la question de prendre des cours de français. Ben, c'est une première étape et ça permet aussi, quand on y assiste, de bénéficier de 10% de discount quand vous vous inscrivez ensuite pour un cours. Voilà, donc le 5 et 12 juin. Et au mois de juillet, nous aurons aussi... pendant les vacances de juillet, nous aurons des workshops à destination des adultes, donc pour approfondir certains points de français, grammaire, conjugaison, prononciation, en fonction des niveaux, mais aussi un workshop spécialement pour les enfants, donc qui aura lieu le 14 juillet, donc un peu pour célébrer Bastille Day, autour d'un workshop de 3 heures pour les enfants de 4 à 6 ans. Voilà, les infos sont sur notre site, encore une fois.
AF Adélaïde.
Voilà, tout à fait.
Un dernier message, peut-être, Axel?
Alors, pour terminer, ce week-end, nous participerons au Bastille Festival. Donc, c'est un festival qui est organisé par la BBR Agency, donc qui produit des événements culturels français en Australie et notamment à Sydney. Donc, ils font ça à Adélaïde ce week-end, donc du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin. Et nous y serons, nous aurons un stand d'information aux côtés de l'association Adélaïde Accueil et l'agence consulaire de France. Et donc, nous serons là pour répondre à toutes les questions des visiteurs, promouvoir nos activités. Donc, s'il y a des auditeurs qui prévoient de venir au festival, il ne faut pas hésiter à passer nous dire bonjour. Voilà.
Absolument. Merci, Axel, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci à tous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les jours. Si j'ai voulu arrêter le temps,
c'était Louane avec cette chanson Maman, chanson qui aurait dû, et c'est un avis personnel, mais qui aurait dû gagner l'Eurovision cette année pour la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.